VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. En RCA, les violences de mercredi à Kagra, Bandoro, dans le centre du pays, ont fait 30 morts et 57 blessés, selon le tout dernier bilan publié par la MINUSCA, la mission onusienne sur place. Et ce, alors qu'à Bangui, le tout nouveau cardinal centrafricain nommé par le pape tendait la main aux musulmans dans une marche pour la paix. Le film des événements à Kagra, Bandoro, avec John Lyndon.
Quatre miliciens ex-Séléka avaient tenté de s'emparer du groupe électrogène d'une radio locale. L'un d'entre eux a été tué dans cet incident. Par la suite, les ex-Séléka ont lancé des représailles, mais se sont heurtés à la force onusienne qui vient d'être renforcée après de précédentes violences. Toujours hier, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, le premier cardinal centrafricain de l'histoire, a marché pour la paix vers le PK5, quartier musulman. Il était accompagné des milliers de personnes, toutes confessions confondues. La semaine dernière, après l'assassinat d'un officier dans ce même quartier, 11 musulmans peuls ont été tués. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, doit se rendre à Bangui les 30 et 31 octobre pour annoncer officiellement la fin de l'opération Sankaris.
En RDC, expiration de l'ultimatum de 48 heures que l'opposition réunie au sein de la plateforme Rassemblement avait donné aux autorités après l'arrestation d'un éminent opposant. Les leaders du Rassemblement et surtout Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, se disent prêts à se constituer prisonniers pour exiger la libération de Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de son parti. Les explications de Peter Kazadi, l'avocat du Rassemblement.
Les 48 heures se sont écoulées. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer à l'action et c'est ce que les responsables des îles de presse sont en train de préparer, ensemble avec les rassemblements. Je crois, sans anticiper, que dans les deux jours qui viennent, une action sera organisée. L'action consistera pour les leaders des rassemblements ainsi que les peuples congolais d'aller se constituer prisonniers chez le procureur général qui est décidé à arrêter tout le monde. Les pouvoirs multiplient les actions tendant à restreindre l'espace politique et ceci sont considérés chez nous comme des signaux de la mauvaise foi de ces pouvoirs. M. Kabila n'a jamais voulu des élections. Il a passé 5 ans à la tête de notre pays. Au terme de son mandat, il est incapable de nous offrir ces élections-là. Nous ne voyons pas comment il peut les organiser aujourd'hui dans un bref délai.
Peter Kazadi, l'avocat du Rassemblement d'opposition en RDC. En Angola, 17 opposants au président José Eduardo dos Santos ont été amnistiés par la justice. Ils avaient été condamnés à la prison en mars et placés en liberté surveillée depuis fin juin, Nani Talani.
Les 17 jeunes ont bénéficié d'une loi adoptée en juillet qui accorde l'amnistie aux condamnés à des peines maximales de 12 années de prison pour des délits non violents. Ses opposants, dont le rappeur Luati Berao, avaient été condamnés à des peines de 2 à 8 ans de prison après avoir été reconnus coupables de tentatives de rébellion. Ils avaient toujours nié les accusations, disant appartenir à un mouvement pacifique. Ils ont été libérés fin juin, mais devaient se présenter une fois par mois à la police et n'avaient pas le droit de quitter le territoire angolais. L'un des opposants, Cédric de Carvalho, veut laver leur honneur devant la justice en saisissant la cour d'appel. Car, selon lui, il est insensé d'amnistier des citoyens innocents et que l'amnistie n'est qu'un moyen pour le président dos Santos de laver son image de dictateur.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a déposé un recours en justice pour empêcher la publication de rapports d'enquête de la médiatrice de la République sur l'influence présumée de familles d'affaires sur le chef d'État. Plus de détails avec Idriss Fall.
À la veille de la publication de ce rapport attendu, Bonganine Kulunga révèle qu'il y a un recours en interdiction qui devrait être examiné mardi par la justice. Monsieur Zuma a été entendu pendant 4 heures jeudi dernier par la médiatrice. L'enquête de Tuli Madonsela vise la riche famille Gupta d'origine indienne soupçonnée d'être intervenue dans la nomination de ministres ou de dirigeants d'entreprises publiques. Le président reconnaît être proche des Gupta, mais a toujours assuré avoir été le seul à décider de l'attribution des portefeuilles ministériels. La médiatrice de la République doit officiellement quitter ses fonctions samedi, après un mandat de 7 ans. Elle a déjà obtenu que le président Zuma rembourse une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Elle sera remplacée par Boussi Siwe Mkrebane, une avocate qui a d'ores et déjà laissé entendre que les affaires de corruption à la tête de l'État ne seraient pas sa priorité.
Afrique du Sud, toujours, le chef de l'opposition radicale de gauche, Julius Malema, comparaîtra devant la justice le 7 et le 14 novembre pour avoir appelé la population à s'approprier illégalement les terres du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le bureau du procureur général. Des poursuites criminelles ont été lancées contre M. Julius Malema pour avoir incité à commettre des crimes d'effraction, a expliqué le parquet dans un communiqué. Les poursuites font référence à deux discours précis tenus respectivement en décembre 2014 et en juin 2016, où Julius Malema avait exhorté ses partisans à s'emparer des terrains agricoles inexploités dans le pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans ont été libérées. C'est ce qu'a affirmé la présidence nigériane, Nani Talani.
Les jeunes filles, dont les noms n'ont pas été encore dévoilés, ont été échangées contre 4 prisonniers de Boko Haram, selon une source proche du dossier. Mais Lai Mohamed, ministre nigérian de l'information, a aussitôt démenti, disant qu'il n'y a pas eu d'échange de prisonniers. De son côté, Garba Shehu, porte-parole de la présidence, a assuré que la libération des jeunes filles a été facilitée par le CICR et le gouvernement suisse. Le comité international de la Croix-Rouge n'a pas souhaité faire de commentaires. Tôt ce matin, les filles ont été amenées à Koumché, à 15 km de Banki, près de la frontière avec le Cameroun. Elles doivent être acheminées à Abuja pour recevoir un suivi médical et psychologique. Le 14 avril 2014, près de 276 lycéennes avaient été enlevées par Boko Haram à Chibok. 57 avaient réussi à s'échapper et l'une d'elles a été retrouvée par l'armée au mois de mai dernier.
En Guinée, l'opposition et la mouvance présidentielle ont signé mercredi à Conakry le document final du dialogue politique national. Les deux partis ont décidé, entre autres, de reporter la date des élections communales initialement prévues en décembre par la Commission électorale nationale indépendance. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
L'opposition guinéenne considère ces accords comme acquis. Elle invite à leur application pour Foude Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, principal parti d'opposition. Il faut une action collective pour sortir de cette crise politique.
Nous voulons inviter ceux qui n'ont pas compris, l'ensemble des Guinéens, d'accompagner le président de la République et le chef de file de l'opposition qui se sont engagés pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Donc donnons-nous la main, essayons de mettre à l'application ces accords. Ceux qui n'ont pas compris, essayons de les sensibiliser pour qu'on puisse aussi sortir de ces situations d'élection pour nous occuper de l'essentiel.
Concernant la CENI, les partis invitent l'Assemblée nationale à procéder à la révision de la loi 016 portant composition et fonctionnement de l'institution. Pas d'élection communale cette année, elles doivent se tenir au mois de février 2017. Un organe de suivi mixte doit se charger de l'application des accords signés ce mercredi. Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
Conflit au Yémen maintenant. Les États-Unis ont bombardé pour la première fois les rebelles chiites houthis au Yémen. Washington les accuse d'avoir visé des navires de guerre américains en mer Rouge. Une allégation démentie par les insurgés. Nathalie Barge.
Les missiles Tomahawk tirés par le destroyer USS Nitz ont visé 3 stations radar sur la côte de la mer Rouge, selon le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, affirmant que les sites ont été détruits. Aujourd'hui, les Houthis ont nié avoir visé la veille un navire de guerre américain. Les affirmations américaines sont sans fondement et les rebelles n'ont rien à voir avec cette action, a déclaré un de leurs responsables militaires. Jusqu'ici, les États-Unis n'étaient pas intervenus militairement contre les rebelles qui contrôlent Sanaa et d'autres régions, limitant leurs actions à des attaques de drones contre Al-Qaïda dans le sud. Soutenus par l'Iran, les Houthis sont engagés avec les forces de l'ex-président Ali Abdallah Saleh dans une guerre civile contre les forces loyalistes, soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite.
Et vous terminez le chanteur américain Bob Dylan, dont les textes poétiques ont influencé de nombreux musiciens, a obtenu ce jeudi le prix Nobel de littérature, premier musicien à recevoir cette prestigieuse récompense.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.